Jean Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Par les temps qui courent, quoi de plus logique que de mettre à l'honneur un héros masqué? Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à travers un héros qui est à la mode depuis maintenant près d'un siècle, un cavalier qui surgit hors de la nuit et qui court vers l'aventure au galop. Ça vous dit peut-être quelque chose. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Un personnage inventé par l'écrivain américain Carson McCulley, adapté à l'écran par Disney et qui a fait le bonheur de plusieurs générations d'enfants du monde entier, au cinéma comme à la télévision. Eh bien, Zorro est de retour. Cette fois dans une bande dessinée. Alors certes, ce n'est pas tout à fait celui que l'on connaît. Notre invité s'est simplement emparé de la légende pour en faire un récit social et politique, épique et plein de panache. L'album s'appelle Don Vega, il est paru chez Dargaud, il est signé Pierre Alary et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Pierre Alary.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne de Bruxelles. On reconnaît évidemment très bien votre trait, hein, le style de vos dessins dans cet album. Et pourtant, on est quand même loin, extrêmement loin de Montre à être ou de Retour à Killybegs, vos deux précédents albums adaptés des romans de Sorge Chalandon. Un album très psychologique, très intériorisé. Vous aviez envie de faire quelque chose de complètement différent?
Oui, complètement. Oui. Alors, non pas parce que je m'étais ennuyé sur les Chalandons, bien au contraire.
J'imagine.
Mais plutôt parce que, à la base, j'aime plutôt la BD, on va dire, populaire, d'aventure, où ça bouge. Et de par ma formation, c'est vrai que j'aime bien le mouvement, ma formation artistique, j'entends. Et donc, j'avais un petit peu envie de revenir sur un dessin avec lequel je me sentirais plus à l'aise que sur les adaptations de Sorge, où là j'étais vraiment dans une zone, j'étais hors de ma zone de confort, et puisque je m'évertue depuis que je dessine à éviter tout ce qui est contemporain pour justement ne pas avoir à dessiner des bâtiments, des choses qui nous entourent, des voitures, des gens en jeans et tout ça. Donc là j'en ai eu pour 300 pages, du coup il fallait que je sorte un petit peu de tout ça, et que je retrouve un peu le plaisir du dessin dynamique et d'aventure.
Alors là, effectivement, on est servi, hein, en parlant de dessin dynamique, on va y revenir dans un instant, mais comment Zorro est-il arrivé sans se presser?
Oui, on peut dire ça. Disons que Zorro cristallisait un petit peu toutes les envies que j'avais dans ce qui concerne l'aventure, et en fait je voulais déjà à la base un personnage qui graphiquement pouvait être intéressant à travailler en silhouette ou autre. Donc c'est vrai que le personnage noir avec une cape, un masque m'attirait. Ensuite, il y a longtemps que je voulais faire aussi un western, donc c'était un deuxième point. Et puis j'avais envie de me frotter un petit peu à un personnage connu. Alors bon, pas pour des raisons commerciales, mais juste pour le côté, enfin nous, j'ai l'impression que nous les dessinateurs, on aime bien faire le vu par, quoi, espèce d'hommage à un personnage connu qu'on essaie de dessiner à notre façon. Donc de fait, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas Zorro, puisqu'il a l'air de réunir un petit peu toutes ces conditions. Même si j'ai jamais été un fan du personnage de Zorro, je me suis dit, ça peut être intéressant justement, d'autant qu'il est pas très connu en Europe. J'ai l'impression que le centenaire de Zorro qui a eu lieu en 2019 est passé complètement inaperçu de ce côté de l'Atlantique. Donc je pense que, pourquoi pas, allons-y, il y a peut-être quelque chose à faire justement avec ce personnage.
Walt Disney présente Zorro.
Qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard, mais équipé sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois.
Générique de la série, ouais. Zorro, énorme succès populaire dans le monde entier, un 78 épisodes de 25 minutes, 4 épisodes de 50 minutes, série diffusée à l'origine en noir et blanc, évidemment, sur la chaîne américaine ABC de 1957 à 1961, série créée d'après le personnage de Carson McCulley en 1919, sous forme de roman feuilleton. C'est Guy Williams, hein, qui incarnait Zorro, Guy Williams qui jouait Don Diego de la Vega, taille mannequin, excellent cavalier, brillant escrimeur. qui tournait d'ailleurs lui-même les scènes de duel avec des épées non mouchetées. Je l'ai appris justement en préparant cette émission et qu'il est tourné d'ailleurs le vendredi, Pierre Allary. Comme ça, s'il y avait un pépin, il avait le week-end pour récupérer et éventuellement se faire recoudre la joue. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas fan du tout de Zorro quand vous étiez enfant. Quel regard est-ce que vous portiez sur la série?
J'adorais le générique. Parce qu'évidemment, voilà, quand on est gosse, ce cavalier qui cabre avec un éclair derrière, c'est magnifique. Par contre, j'ai jamais été, j'ai jamais accepté le loup, déjà, ce petit masque. J'ai jamais accepté le fait qu'on reconnaisse pas le personnage une fois qu'il mettait son masque. C'est un peu comme Superman avec ses lunettes. Ça m'a toujours, même gamin, ça m'a toujours gêné, quoi. Je dis, si c'est le même, on le voit bien. Donc, déjà, ça me gênait. Il y a ce chapeau, il avait un chapeau plat, un peu ridicule aussi, qui m'a toujours gêné. Et de fait, la première chose que je me suis dit en ayant envie d'adapter Zorro, je vais tout de suite enlever ces deux artifices là qui me dérangent. Et c'est pour ça que je me suis dit d'ailleurs le meilleur moyen pour pas qu'on le reconnaisse, à part une cagoule, je voyais pas. J'ai essayé le bandeau, alors un petit peu à la bandera, ce qui est pas mal, qui cache la moitié du visage, mais ça me paraissait encore trop peu. Donc je me suis dit mettons-lui une cagoule, comme ça au moins je suis sûr que personne ne reconnaîtra. Oui. Et puis ça m'évitera de rajouter un chapeau par-dessus.
Et mais graphiquement, sinon, les deux trous de la cagoule sont aussi très importants. Hein. Ils marquent tout de suite le lecteur à travers vos cases.
Oui, et puis il faut bien qu'il voit quelque chose. Mais c'est vrai que il y avait ce côté. En plus, il rejoignait, puisque dans mon approche, j'ai voulu faire de Zorro c'est pas peu importe qui est sous masque, quoi. Zorro, j'ai voulu essayer d'en faire un mythe. Donc il y a un Zorro avant, il y aura peut-être un Zorro après. Et de fait, le Zorro avant, un paysan peut faire Zorro en mettant un masque sur sa tête. Et je m'étais dit, ils vont prendre ce qu'ils ont autour d'eux. Donc les cagoules, c'est de la jute, c'est un bout de toile de jute, ils font deux trous dedans, et puis voilà, ça leur fait une cagoule. Et je voulais que le personnage, donc le vrai, entre guillemets, Zorro, reprenne un petit peu les mêmes artifices qu'eux, quoi. Il reprend un sac, alors un petit peu plus classe peut-être, mais oui. Voilà, c'est juste un sac sur la tête, quoi.
Voilà, alors justement, elle est omniprésente, hein, cette cagoule ou ce sac, comme vous dites, qui est un peu une forme de X noir, avec donc les deux trous au milieu, et que l'on retrouve à plusieurs moments de votre récit, peinte sur les murs. Elle est sur la page de garde, sur la quatrième de couverture, de la première case juste après le prologue. Plusieurs personnages la font comme ça apparaître simplement en appliquant leurs mains noires sur les murs, y compris dans une scène, il y a des enfants, hein, qui plongent les paumes de leurs mains dans la peinture. Ça a l'air de rien comme ça, mais ce petit signe-là, c'est vraiment un moment à chaque fois très fort de la narration. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce signe graphique-là? C'est le X plutôt que le Z, c'est ça l'idée? Petit clin d'œil?
Alors, pas vraiment. En fait, ce X, c'était juste la façon pour moi de faire un masque assez facilement avec les mains, c'est-à-dire hop, alors ça aurait pu être une bande noire avec deux points pour les yeux. Je m'étais dit bon, ils vont utiliser leurs deux mains, ils vont faire un X, et c'était surtout pour ramener l'interprétation de Zorro à un niveau social et de faire une espèce de le graffiti. Ça a toujours été depuis la Rome antique un symbole de contestation. Et je voulais un petit peu ramener cette idée, c'est-à-dire que le peuple s'est accaparé le symbole de Zorro et conteste un petit peu à sa façon et avec ses moyens, c'est-à-dire pour le coup un petit peu de peinture et de peinture noire, et voilà, et imprime la marque et les traces de sa contestation un petit peu partout dans la ville, comme on le retrouve maintenant, comme il y a eu et il y aura encore le A de anarchie et ainsi de suite. C'était vraiment pour ramener voilà un petit côté alors social, c'est vite dit, mais en tout cas ramener le personnage dans le giron de la société de l'époque, quoi, dans le giron des gens qui avaient besoin de ce personnage.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Pierre Allary pour son album qui ne s'appelle pas Zorro, hein, mais qui s'appelle Don Vega, paru, je le rappelle, aux éditions d'Argo. Alors Don Vega, c'est en quelque sorte le Zorro d'avant Zorro, hein, on le comprend dans le clin d'œil que vous faites dans les deux ultimes cases de l'album. On n'en dira pas plus, évidemment, mais c'est important de préciser cette notion, on va dire, de chronologie, Pierre Allary, parce que le contexte historique est très important pour comprendre votre récit. On est vraiment à un moment charnière de l'histoire de la Californie.
Oui, alors l'idée m'est venue pendant les recherches, c'est-à-dire qu'en faisant les petites recherches autour du personnage de Zorro et du personnage du roman, j'ai découvert le personnage qui avait influencé l'écrivain, et qui était un bandit mexicain qui s'appelait Joaquim Murrieta.
Un Mexicain né en 1829. Vous avez donc enquêté auprès de ce personnage pour bâtir le vôtre ?
Voilà. À la base, je me suis même posé la question si j'allais pas adapter la vie de ce Mexicain, puisque je voulais faire un Zorro, mais un Zorro vu de faire un petit pas de côté, vu de mon point de vue, et je me disais que ça pouvait être intéressant d'attaquer justement ce point de vue par la vie de ce Mexicain. Donc Joaquim Murrieta qui attaquait les propriétaires blancs à l'époque pour venger son peuple, mais on était plus dans les années 1840, donc on était au début de la ruée vers l'or, et donc pas du tout sous la conquête espagnole comme dans le roman. Dans le roman, on est dans les années 1820, donc la Californie est encore aux Espagnols, après elle va passer aux Mexicains, et après elle passera aux Américains entre guillemets. Donc là, nous, on était déjà à la fin de la guerre du Mexique. Et je trouvais que le contexte était assez intéressant. Après, de fait, le personnage ayant eu une vie très courte, on avait une fin assez radicale. Et je m'étais dit, avec ce genre de fin, puisqu'il a terminé la tête coupée, et on l'a mis dans un bocal et qui a fait le tour des fêtes foraines à l'époque, oui. Pour que les Blancs montrent bien leur suprématie, et que voilà, que personne ne recommence à faire des bêtises.
Donc là, graphiquement, on pouvait se dire que c'était intéressant, mais vous n'êtes pas aventuré jusque-là.
C'était intéressant, mais c'était radical. C'est-à-dire qu'après, non seulement j'aurais pas pu refaire un Zorro, puisqu'on avait le même personnage et à peu près la même histoire, et en plus, il n'y avait aucune possibilité de suite. C'est tant est qu'il y a eu du succès avec cet album, parce que voilà, une tête coupée...
Forcément, c'est difficile après, de revenir en arrière.
Difficile. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, autant prendre Zorro, mais par contre, je vais prendre Zorro, mais que je vais garder... dans ce contexte historique, qui me semblait beaucoup plus intéressant.
Donc un contexte historique vraiment très très incertain. Je veux parler de moments charnières. En fait, on est vraiment dans une période de flou législatif, hein, de transition entre deux époques politiques.
Complètement, complètement. Et justement, c'est ce qui permettait d'avoir une espèce de... Ça nous donnait un bon terreau pour que, au niveau de la société, ça soit aussi une espèce de grand flou politique et... chacun fait un peu ce qu'il veut, et c'est toujours la loi du plus fort. Bon, après, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil, malgré tout, mais bon. Et, de fait, voilà, ça me semblait plutôt intéressant, puis ça me permettait, voilà, de mélanger pas mal de choses. Il y avait la ruée vers l'or, donc, c'était une chose intéressante, puisque ça me permettait d'introduire, les Français. Alors, même si tout ça n'a pas été exploité, puisqu'il fallait quand même que je reste sur mon histoire de Zorro et de vengeance, mais je trouve que ça donnait vraiment un fond beaucoup plus intéressant que l'époque espagnole, qui me semblait moins charnière.
Oui, c'est vrai qu'on est finalement dans une histoire qui est peut-être un petit peu moins manichéenne que ce que l'on a pu voir effectivement à la télévision, puisque bon, il y a quand même clairement des méchants, il y a des bons, mais aussi il y a ceux qui sont un peu dans le marais, on va dire, hein, qui jouent double jeu, qui peuvent aussi éventuellement changer de posture et avoir une posture officielle, une posture officieuse. Et s'il y a un homme qui va tirer profit de cette période très incertaine, Pierre Alary, c'est le seigneur Gomez. Il a l'air très propre sur lui, hein, ce personnage, avec sa barbe, ses cheveux blancs bien taillés. En fait, c'est un abominable individu.
Lui, il peut être propre, il a les moyens. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, c'est ces individus-là qui ont créé, qui ont monté la Californie, quoi. Enfin, et sûrement beaucoup d'autres États et d'autres pays. Et ça aurait mérité un développement, mais c'est pour ça que j'ai fait une espèce d'introduction historique, pour que les gens n'aient pas à se poser trop de questions sur le contexte. Et que je puisse rentrer dans les dialogues sans avoir des dialogues explicatifs qui sont souvent très vite insupportables en bande dessinée, avec les gens qui discutent entre eux en se donnant des dates et des lieux,
oui.
Ce qu'on fait jamais. Donc voilà. Et ça me semblait vraiment vraiment bien. Après, maintenant, c'est vrai que, enfin, comme je vous dis, la frustration, c'est de pas pouvoir aller plus loin dans ça, parce que je suis quand même obligé. Alors je me suis obligé en tout cas à codifier le récit et à vraiment garder tout ce qu'on sait autour de Zorro, quoi. C'est-à-dire la violation de sa maison, la trahison, le retour du fils prodigue qui vient se venger. Donc voilà, je voulais vraiment remettre tout ça en place Est-ce qu'il laissait plus beaucoup d'espace au côté réalité historique qui aurait pu être derrière?
Oui, parce qu'il y a effectivement la spoliation de la Hacienda Vega. Dès le premier, la première planche de l'album, on apprend effectivement qu'il se passe quelque chose, puisque vous dessinez, vous écrivez une lettre que le curé, hein, le père Delgado, envoie au jeune Don Vega qui se trouve en Europe à l'Académie militaire de Madrid et qui lui demande comme ça de rentrer dardard. Et donc celui, ou plutôt ceux, qui se comporte de si mauvaise manière, c'est donc ce fameux Seigneur Gomez et son second, qui n'est pas non plus un personnage très recommandable, hein, qui s'appelle Borro. Comment est-ce que vous pourriez nous le décrire, ce personnage de Borro, Pierre Alary?
Pas facile, mais lui aussi, il fait partie des codes. C'est-à-dire que de toute façon, comme souvent dans les récits, dès qu'il y a un méchant, un grand méchant, il faut toujours qu'il ait un bras droit qui s'occupe des tâches ménagères.
Oui.
Et du coup, c'est un peu, voilà, ça fait partie aussi des choses assez imparables. Donc il faut que le bras droit du méchant soit un tout petit peu plus méchant que le méchant.
Voilà, il a l'air un peu plus patibulaire.
Il va intervenir. Voilà, et qu'il est, on sent que lui c'est sali, quoi. Il a déjà un œil en moins. Alors que l'autre, comme vous dites, il est blanc, il est nickel, il a sa barbe bien taillée, il a son petit costume. On sent que l'autre a un peu plus mis les mains dans le cambouis. Et de fait, on apprendra lui aussi d'où il vient, puisqu'il faut quand même tirer une petite ligne, une petite relation entre tous les personnages. Après, à développer, puisque ça, moi j'aime. Alors voilà, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, hein, des euros, mais j'aime aussi l'idée du méchant qui revient, puisqu'un bon méchant. C'est toujours un méchant qui revient à un moment donné. Et j'aimerais bien, voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais bien exploiter.
Oui, donc il fallait donc le caractériser beaucoup plus fortement peut-être que d'autres personnages.
C'est ça, tout à fait. Il faut qu'il ait quelque chose qui différencie un petit peu et qui marque.
Voilà, donc Borro et Gomez face à ces paysans spoliés, hein, ce qu'on appelle les péons, hein, ces ouvriers agricoles exploités par les colons, c'est, on va dire, la situation de départ. Et pour résister, en quelque sorte, au mauvais traitement de Borro et Gomez, ces péons vont utiliser justement ce fameux signe de Zorro qu'on évoquait au début de cet entretien. Il les agace beaucoup, ce signe, et un soir, Gomez, Borro et leurs comparses, à la lueur des flambeaux, réunissent les péons pour les dissuader de continuer et essayer de faire en quelque sorte un exemple. Nous sommes à la page 20 de votre album.
On vous a déjà prévenu plusieurs fois. Notre ami Pablo était un peu étourdi et a dû l'oublier. La peinture, c'est pour les enfants. Et ça laisse des traces. Nous allons donc expliquer à Pablo que nous ne voulons plus voir ses graffitis. Ensuite, Consuela, qui n'a pas voulu nous donner le nom des amis masqués de feu son mari, sera aussi punie devant vous tous. Mais elle va être très courageuse, vous allez voir. J'espère que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes que ce El Zorro n'existe pas. Allons-y, Pablo, courage!
Relâche ces gens. Je suis là, Cabron.
Qu'est-ce qu'il fout, celui-là ?
La personne qui dit « Je suis là, Cabron », c'est donc le Zorro, l'un des premiers que l'on découvre, en quelque sorte, Pierre Alary. Je voudrais que vous commentiez justement cette planche sur laquelle il y a effectivement ces mots « Je suis là, Cabron ». On voit, c'est la page 22 de votre album. Elle entre en résonance, d'ailleurs, cette planche, avec une autre case qui se trouve à la page 40. Alors, autant la planche 22 occupe vraiment toute la longueur et la largeur de la page, autant celle de la page 40 n'est qu'une petite case parmi tant d'autres. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, nous mettre en miroir ces deux cases-là?
Alors, écoutez, déjà, bravo pour la mise en scène, hein, c'est impressionnant. Quel travail avec toutes ces voix et ces musiques. Et de fait, là, on est vraiment sur la page 20, c'est l'introduction, j'allais dire classique, hein, en tout cas du super-héros. Ça aurait pu être, ça pourrait être Batman, ça pourrait être n'importe qui. C'est l'apparition sur les toits, en plongée au-dessus de la foule et des méchants, du héros capé et masqué. Sauf que là, évidemment, ça deviendra un peu plus cynique quand on saura qui est ce personnage masqué. Mmh. Parce que oui, on parlait donc des gens qui manifestaient en traçant des graffitis sur les murs, mais il y a les plus courageux qui, eux, par contre, enfilent le masque et tentent de personnaliser le Zorro, le mythe. Mais évidemment, pour ça, faut avoir quand même un minimum de talent au niveau de l'armement et de l'escrime et du tir au pistolet. Et ce que tous n'ont pas, puisque ce sont quand même des paysans, à la base, plus adaptés à travailler les champs qu'à tirer au pistolet sur des hommes. Donc voilà, donc il y a cette première apparition avec ce personnage, en effet, de dos et masqué. On pourrait croire que c'est le vrai Zorro. Donc on apprendra assez dépens que non. Et plus tard, page 40, ben on reprend à peu près. Alors, pour le coup, on est moins en situation de, comment dire, d'impression. C'est-à-dire que le personnage n'est pas là pour impressionner les méchants qui sont en dessous, puisque cette fois-ci, il a intérêt à être plus discret. Donc forcément, la case, déjà, on avait moins besoin de la mettre en avant.
Oui, mais là, vous faites un gros plan sur les chaussures, et c'est pas anodin.
Juste pour montrer aussi que là, on n'est plus sur le personnage qui a des sandales. C'est-à-dire que sur le premier, on a quand même le bonhomme a des sandalettes, a gardé ses sandalettes de travail, quoi. Parce qu'évidemment, il n'a pas de bottes. On peut dire que c'est un peu un indice. Là, en effet, on est déjà sur un personnage qui est un peu plus équipé. Et donc, qui a des grosses bottes de cavalerie. Donc, on sent que ça va être un peu différent.
Ouais. Et ces deux cases, vous le disiez à l'instant, Pierre Adari, elles sont vraiment en plongée. Hein. Donc l'œil du lecteur est avec le personnage de Zorro sur le toit en tuiles, et on voit effectivement les autres personnages de la scène qui eux sont en contrebas. C'est un cadrage pour le coup extrêmement cinématographique. Là, on n'est pas très très loin de la série de Disney.
C'est vrai que alors j'essaye en général d'avoir un découpage dynamique et lisible. Et après, ma culture, c'est qu'il y a une culture très cinématographique, donc je me nourris énormément de cinéma, de films, à longueur de journée presque, puisque quand je travaille devant mon ordinateur, j'ai quasi en permanence quelque chose qui tourne, un film ou une vidéo ou une série sur mon ordi, que je regarde d'un œil, mais qui me nourrit en permanence, c'est-à-dire qu'il y a de la dynamique, il y a du mouvement, et je peux m'arrêter tout de suite de travailler, puis de faire si je vois une image qui passe, qui m'intéresse, faire ou un arrêt sur image, ou une capture d'écran, ou quelque chose pour la garder, pour la mettre de côté, parce que je me fais aussi énormément de banques d'images, avec des compositions, des cadrages, des fois plusieurs images qui se suivent pour avoir une logique dans une séquence, et des choses comme ça. Donc de fait, à chaque fois que j'entame un storyboard, quel que soit l'album, je pense toujours cinéma, quoi. C'est-à-dire, je pense au plan d'avant, au plan d'après, au raccord. J'essaye de, quand le personnage est dans un décor, de faire qu'il y ait une logique d'une case à l'autre quand il va bouger dans le décor, qu'on passe pas d'un côté, qu'on découvre pas une fenêtre qui n'était pas là ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il faut que tout soit cohérent, même si on le verra peut-être pas. Mais pour moi, en tout cas, en tant que créateur, entre guillemets, de l'histoire, il me faut une logique. À ce niveau-là, quoi.
Et ça, vous l'avez entre autres expérimenté quand vous avez travaillé au studio de Montreuil pour Disney. Vous y êtes resté quand même un paquet d'années, une petite dizaine d'années quand même. J'imagine que ça vous a servi aussi, non?
Je suis persuadé que ça vient de là. Puisque quand on travaille quand on fait un plan d'animation, on est dépendant du plan d'avant, du plan d'après, on est dépendant du décor qui est déjà en place, qui a déjà été dessiné par quelqu'un d'autre, de la zone, en tout cas de décor, puisque c'est pas un décor, c'est toujours une zone. Donc, on est obligé de faire attention à tout ça, de faire attention au raccord déjà des mouvements, des personnages, d'une scène à l'autre, puisque c'est pas nous qui faisons les scènes qui s'enchaînent. Donc, il y a une première personne qui va faire la première séquence. Moi, si je fais la séquence qui suit, j'ai intérêt à être raccord. C'est-à-dire que s'il a entamé un mouvement, il faut que je le termine, et puis que je propose le mien, et ainsi de suite. Et tout ça en fonction du décor. Donc, c'est évident que ce travail de précision au niveau de ce qu'on appelle le staging, quoi, c'est-à-dire le personnage justement au milieu de son décor, vient de là. Ça, j'en suis persuadé.
Et vous utilisez beaucoup effectivement la plongée et la contre-plongée. Il y a une autre case, par exemple, que moi j'ai trouvé vraiment superbe. C'est la page 25. C'est la scène du pendu, si j'ose dire. Et là, vous jouez à la fois sur le cadrage, sur la perspective, et puis aussi sur le contraste de lumière.
On va dire que là, pour le coup, dans ma tête, à moi, c'était un peu la case, mauvais jeu de mots, le pendant de la page 22. C'est-à-dire qu'on a le même personnage,
oui,
dans le même point de vue, sauf qu'on a l'avant et l'après. On voit qu'il a tout foiré, et on retrouve à peu près la même gamme de couleurs. Et mon idée, c'était vraiment ça, c'était de montrer que, de jouer sur le clin d'œil du gars qui a foiré, quoi. En gardant vraiment le même genre d'angle. Et on retrouve la sandalette.
Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince près de la Syrie et très méchamment lui dit:
si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux.
Puis il l'empoigna. Et il la ficela. Il l'a mis sous la scie.
Et Zorro est
arrivé sans se presser. Le grand Zorro,
le beau Zorro,
avec son cheval et son grand chapeau.
Mais bientôt j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait:
donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée.
Puis il l'empoigna. Mais il la ficela. Il mit le feu à la dynamite.
Et Zorro est arrivé
sans se presser.
Salvador, évidemment, dans VMDN sur RFI avec Pierre Alary pour son album Don Vega chez Dargo, album dans lequel Zorro arrive, souvent avec son cheval, mais rarement avec son grand chapeau, et pas du tout avec son masque et avec son loup, mais plutôt avec cette cagoule qu'on a évoquée. Et le cheval, Pierre Alary, on le voit notamment sur la couverture, hein, et aussi à l'intérieur de l'album, la force du cheval, avec cette idée de mouvement qui répond aussi à la cape de Zorro dans le vent. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous expliquer justement comment vous avez conçu la couverture de l'album?
Alors la couverture, ça partait aussi du principe. Alors j'aime bien travailler les couvertures alors à mon humble niveau, mais un peu comme une affiche.
Oui.
Et c'est-à-dire quelque chose de très graphique, très en silhouette. Généralement, j'essaie sur la majorité de mes albums, même sur le Traître et puis le Retour avec Liebeg, j'avais aussi essayé de travailler un petit peu ça, c'est-à-dire des silhouettes très lisibles, sans spécialement rentrer dans le détail à l'intérieur, quoi, du personnage. Et pour Zorro, je voulais aussi retrouver cette efficacité. Et en même temps, ça modernise, je trouve, un petit peu le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on, voilà, on n'est pas dans, je voulais surtout pas, surtout éviter le côté qu'on retrouve malheureusement un peu trop souvent, c'est-à-dire d'avoir une typo western pour un western ou d'avoir une typo métal pour un truc d'heroic fantasy. Enfin voilà, je voulais complètement casser ça, cette image, et avoir quelque chose d'un peu plus moderne.
Mais c'est vrai, on a un peu l'impression de relief là sur la couverture, Pierre Harry. On a presque l'impression que vous avez découpé votre silhouette Zorro plus le cheval et que vous l'avez ensuite recollé sur le fond orange.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça. En fait, quand je pars sur mes recherches pour les couvertures, je regarde beaucoup d'illustrateurs, de graphistes, et plutôt que des dessinateurs classiques, on va dire. Et donc ça peut être Gruau, ça peut être des gens comme ça, et des affichistes, pour essayer de trouver quelque chose qui aille dans ce sens-là, quoi, qui est vraiment une dynamique et en même temps un côté très graphique, c'est-à-dire pas beaucoup de couleurs, que le message soit clair. Et de fait, là, j'étais parti sur un fond complètement orange, et j'ai eu la chance de travailler avec le directeur artistique de chez Dargo, là, qui lui m'a proposé ce nom Z, on va dire, d'ailleurs, parce que bon, on a eu pour des raisons légales. Alors évidemment, Dargo a acheté les droits,
oui.
Mais pour des raisons légales, malgré tout, on n'avait pas le droit de mettre un Z sur la couverture.
Ah, d'accord.
Et de fait, le graphiste a eu cette idée géniale, c'est-à-dire on voit le Z, mais il n'y a pas de Z, puisque il n'est pas complet. Et j'ai trouvé ça excellent. Et de fait, on est resté là-dessus. On s'est dit, c'est une couve qui a dû prendre 3 heures, quoi. J'ai proposé ma première idée, m'a proposé la sienne. On s'est dit, bon, bah voilà, je pense qu'on y est. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Ben non, on va pas mettre des montagnes, on va pas mettre des palmiers, on n'a pas besoin, tout est dit, quoi. On a le mystère, on a l'aventure, on a le dynamisme.
Non, c'est vrai qu'elle est vraiment très très forte, cette couverture, et elle répond aussi à une autre planche qui se trouve cette fois à l'intérieur de l'album, c'est la page 75, où on voit aussi le personnage de Zorro sur son cheval. Alors cette fois-ci, le cheval est bien cabré. Là, on est pour le coup en contre-plongée, hein, on a vraiment l'impression d'avoir le cheval au-dessus de soi. C'est un animal difficile à dessiner, le cheval, Pierre Allary.
Ouais, c'est un peu la question qu'on se pose souvent et qu'on pose souvent. Et oui, ça. Alors après, c'est difficile pour moi, en tout cas, c'est assez difficile. Et c'est un peu le paradoxe parce que le cheval, ça a l'air simple. On voit ces trois blocs. Voilà, c'est très graphique pour le coup. C'est un peu comme une voiture. C'est des lignes, des courbes. Il n'y a pas de mauvais angle, d'angle compliqué. Mais le problème, c'est que c'est que du muscle. Donc c'est que de l'anatomie. Et à partir de là, il faut pas se planter, quoi. Surtout quand on pose les lumières, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui tape sur un cheval. Il faut que les ombres soulignent vraiment les muscles. On peut pas mettre des ombres n'importe où. On peut pas, sinon ça tient pas debout et ça se voit tout de suite. Et ça a été assez laborieux. Alors après, j'imagine que voilà, l'appétit vient en mangeant, en faisant un peu plus, ça devrait aller mieux. Mais du coup, alors heureusement, on plonge un petit peu dans les références puisqu'il y en a énormément. On est entouré de dessinateurs qui ont dessiné des chevaux merveilleux et. Grâce leur en soit rendu, voilà, eux ils sont passés de, ils ont digéré le document photo ou autre, et ils en ont fait quelque chose de graphique. Et moi, c'est vrai que quand je cherche des choses comme ça, je vais directement chez eux puisque ils ont déjà fait ce travail de digestion, quoi. Et je trouve des solutions directement dans leurs travaux. Après, voilà, faut arriver à le personnaliser aussi. Je vais pas faire, déjà j'en serais incapable, mais je vais pas copier les chevaux de Giraud. Qui sont sublimissimes, mais voilà, on va pas les copier. Donc j'essaye de trouver ma façon de faire le cheval. Et puis quand il y a des, quand je bloque un petit peu, il y a toujours un copain doué qui traîne et puis qui peut voilà, me décanter d'un petit croquis, quoi.
Mais alors le cheval, Pierre Allary, c'est, je crois, un bon exemple pour parler un peu de votre trait. Alors la question va peut-être vous paraître un peu bizarre, va peut-être beaucoup vous surprendre, mais votre trait, il est parfois très anguleux, parfois beaucoup plus rond. Quand et comment est-ce que vous choisissez de faire une courbe ou une arête?
C'est un combat permanent. C'est-à-dire que j'ai un trait. Alors lui aussi, je pense que mon trait, j'ai eu des tics qui me sont restés de ma période dans l'animation. Et j'ai un mal de chien à m'en débarrasser. Notamment des années, les quelques années au début où j'ai fait de l'assistana, c'est-à-dire l'assistana, quand on est assistant animateur, c'est qu'on reprend les croquis de l'animateur et on les remet au propre, donc au volume, et on fait un trait très propre. Donc faut, voilà, c'est ciselé, quoi, c'est vraiment tic 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 tic, faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse. Et je pense que ça m'est resté. Et de fait, comme je travaille toujours au pinceau, j'ai cette manie du plein et du délié. Et j'essaye de m'en débarrasser régulièrement et j'y arrive pas. Et du coup, de temps en temps, quand je me sens un peu à l'aise, il y a un petit carré, il y a un petit angle. Et puis quand je me sens un peu moins à l'aise, ben je continue d'arrondir pour voilà, par sécurité. Donc, on peut dire que ce cheval, il a peut-être le ventre a été fait d'une façon plus relaxe que le derrière.
D'accord, mais c'est vrai que c'est vraiment une planche absolument magnifique, mais ce côté, ce mélange justement entre les courbes et les lignes droites, on le retrouve finalement tout au long de l'album, y compris d'une scène à une autre sur un même personnage. C'est une façon pour vous d'accentuer tel ou tel trait de caractère?
Écoutez, je ne sais pas, en tout cas, j'essaie d'être cohérent. Donc à partir du moment où voilà, je fais des traits, des carrés et des ronds, à un moment j'essaie d'en faire partout. Après il y a des trucs, je pense que ça vient aussi d'une rapidité d'exécution. Il y a des traits qu'on a l'habitude de faire, de refaire, qu'on fait un millier de fois. Je vois là par exemple sur la page 74, la case du en bas à gauche, là, la cagoule de Zorro, il y a cet angle très dessiné. avec un trait plus épais. Et ça, je pense que c'est des traits qu'on, je l'ai fait, j'ai fait un million de fois ce trait. Donc lui, je sais le faire. Et donc c'est un trait que je fais pop, pop, comme ça. Il y a quasiment pas de réflexion. Il y a juste à se demander, à faire attention si on est côté lumière ou côté ombre. Puisque voilà, dans le dessin, en général, on essaye de faire un trait plus épais côté ombre qu'au côté lumière. Pour rester logique avec l'éclairage et, mais c'est des choses qui viennent assez naturellement et de fait, je me pose pas vraiment la question quand je dessine, c'est après. Par contre, en regardant mon dessin, là, je peux revenir des fois justement pour épaissir un trait, pour souligner un muscle ou un endroit important du dessin et qui va devoir attirer l'œil avant un autre. Mais ça, c'est a posteriori que je fais ça, en regardant mon dessin avec un œil de lecteur cette fois. Et je me dis, tiens, là, ça manque d'épaisseur, parce que je veux qu'on voit ce petit coin, et là, on le voit pas. Mmh. Donc, hop, je vais réépaissir mon trait.
Alors, effectivement, c'est pas sûr. Vous parlez de la lumière à l'instant, Pierre Allary. Alors, on n'est pas dans du noir et blanc. Hein, on est bien d'accord, l'album est au contraire extrêmement coloré, vous jouez beaucoup sur les tons ocre, entre les jaunes, les orangés, les rouges, jusqu'au marron. Comment est-ce que vous avez choisi cette gamme de couleurs ?
Alors, on n'est pas en noir et blanc, et pourtant l'album a été conçu, c'est-à-dire...
Il y a un côté très binaire, effectivement.
Ouais, parce qu'en plus, alors j'ai fait quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, c'est que toutes les trames de l'album ont été faites en trames mécaniques. Donc, c'est-à-dire que les trames, c'est ces papiers autocollants avec des petits points noirs qui donnent une ombre qu'on utilisait il y a très 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 longtemps en dessin et qui donnent des valeurs donc de noir, on va dire. Et là, j'ai voulu, pour retrouver un petit peu cet esprit pulp des vieilles BD, j'ai voulu faire tout ça mécaniquement pour avoir des jolis originaux. Alors, c'est un caprice de dessinateur, avoir des jolis originaux avec de la trame un peu partout. Donc ça m'a pris un temps fou et j'ai dû poser. Donc toutes les petites ombres qu'on peut voir avec des petits points, là, il y en a plein partout. Tout ça, c'est de l'autocollant que je découpe et que je colle en fonction de mes besoins. Et ça donne déjà une première version en noir et blanc qui est quand même conçue comme telle, puisque j'ai des lumières, j'ai des ombres, j'ai des valeurs. Donc en soi déjà elle se tient. Et ensuite pour les couleurs, alors moi mon truc c'est que je suis pas un grand coloriste, jusqu'à maintenant j'ai rarement fait mes couleurs, et quand je les fais je suis toujours dans des bichromies sans risque, on va dire. Donc là j'ai voulu quand même pousser un petit peu plus loin, mais je suis resté dans des lumières d'époque, on va dire. C'est une époque où il n'y a pas d'électricité, on est encore quand on est éclairé, on est éclairé à l'huile ou alors avec des flammes, à la torche. Donc ça me donnait une gamme assez réduite de couleurs, en tout cas dans la lumière, c'est-à-dire des jaunes orangés. Et après on est aussi dans des lieux toujours terreux, que ça soit la mine, que ça soit le western, de toute façon c'est voilà, on était un peu dans la gadoue tout le temps, ouais. Et dans la terre. Donc il fallait que je tourne un petit peu autour de ces couleurs sablonneuses comme ça pour donner appuyer un peu aussi sur l'ambiance western justement.
Et puis les scènes de nuit, alors vous jouez entre les gris et les bleus en fait, plus que les noirs.
Ouais, là c'est compliqué parce qu'il faut arriver à les varier. Et alors du fait de mon inexpérience, j'avais tendance un petit peu à retomber tout le temps sur les mêmes bleus quoi. Donc pareil, là il faut se faire un peu violence et puis commencer à tripatouiller ces couleurs pour avoir des variantes de nuit quoi. On n'est pas les nuits, la lumière la nuit n'est pas toujours la même. Et j'ai eu la chance de travailler avant avec des coloristes qui étaient vraiment très doués, qui notamment sur une série qui s'appelle Silas Coré, et le coloriste arrivait à, parce que je l'ai revu, je regardais ça en travaillant, ça c'était l'une de mes références au niveau des couleurs bien sûr. Et je me suis rendu compte toutes ces nuits sont différentes quoi. C'est-à-dire quand on sait le faire, on peut facilement à chaque fois varier les teintes de bleu, et c'est incroyable. Et j'ai essayé de retrouver un petit peu ça, mais avec difficulté quand même. Hein. Je me rends compte qu'on tourne souvent autour de la même base, mais ça vient.
Et puis il y a aussi les scènes de pluie, et notamment l'une des toutes dernières scènes, hein, quasiment la dernière scène de votre récit. On va pas évidemment raconter de quoi il s'agit, mais c'est plus compliqué à dessiner une scène de pluie avec ces traits comme ça obliques qui viennent comme ça fouetter la case.
Ah non, alors justement moi ça me plaît bien parce que ça remplit un petit peu les vides. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça rentre dans l'énergie. on n'est plus dans le, comment dire, dans l'illustration. On est vraiment dans l'énergie. C'est-à-dire que la case, elle va vivre parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a des petites gouttes partout. Donc du coup, je me pose plus trop la question de l'enluminure, c'est-à-dire de savoir comment je vais arriver à rendre une belle case avec des belles couleurs, des belles lumières, mais je vais surtout travailler à l'énergie sur la séquence. Du coup, là, les questions que je me pose, c'est plus d'être logique au niveau de la tension de la pluie. Alors, c'est très bête.
Oui.
On commence la pluie. Là, on a une pluie qui commence, je crois que c'est dans les pages 80, donc elle tombe doucement d'abord, puis elle va s'accélérer, elle va commencer à tomber plus fort en fonction aussi de ce qui se passe, j'allais dire à l'écran, de ce qui se passe dans l'histoire. C'est-à-dire que là, on a une poursuite en calèche, donc évidemment, ça aussi, c'est un peu un classique de la narration. Plus il va y avoir de tension dans la séquence, plus l'environnement climatique va lui aussi dégénérer. Donc, la poursuite prend, et plus on est dans le feu de l'action, plus il va pleuvoir fort. Mais tout ça, c'est des choses, faut quand même faire attention. Donc il pleut fort à ce moment-là, et puis évidemment après ça retombe. Alors on arrive à la fin du livre, donc je vais arrêter de faire pleuvoir à torrent à la fin du livre. Il faut qu'on ait un peu plus, qu'on laisse de la place au personnage. Donc du coup l'ambiance va tomber, et on va ramener le lecteur sur le personnage et sur ce qui se dit. Donc, il faut faire tomber la pluie tout doucement. Mais alors, ça paraît bête, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention, puisque ça fait vraiment partie du rythme général de la narration, quoi.
Merci beaucoup, Pierre Allary, de nous avoir expliqué comment vous avez imaginé, dessiné, scénarisé, raconté ces nouvelles aventures de Zorro, d'avoir tombé le masque, en quelque sorte. Je rappelle que votre album s'intitule Don Vega et qu'il est paru aux éditions d'Argo. Dernière petite question subsidiaire, Belladone, qui est une série de KPDP aussi, est complètement finie?
Normalement, enfin c'est ce que je répète depuis longtemps maintenant, normalement non, il y a toujours eu un deuxième cycle de prévu, mais voilà, les aléas de la vie, chacun suit son chemin, comme dirait l'autre,
et puis,
du coup, on aimerait bien, les scénaristes et moi-même, on aimerait bien le continuer, mais voilà, il y a aussi maintenant Silas Corée qui faudrait aussi continuer, donc je pense que l'un va prendre la place de l'autre, mais si le temps... avec un grand T le permet, j'aimerais beaucoup conclure et l'un et l'autre.
Merci, merci beaucoup Pierre Allary d'avoir été avec nous pour VMDN. A Thousand Years, Christina Perri, extraite de la bande originale du film Twilight 5, en sortant les gousses d'ail et les crucifix, puisque les vampires sont de retour. 12 ans après la parution du dernier tome de la saga, l'américaine Stephenie Meyer revient avec Midnight Sun, une réécriture de l'histoire du point de vue non pas de la jeune Bella Swan, mais d'Edward Cullen, le personnage vampirique dont elle tombe amoureuse. Mais alors que l'autrice avait principalement conquis le cœur des adolescentes en 2005 lors de la sortie du premier livre, ses lectrices ont aujourd'hui bien vieilli. Alors sont-elles toujours aussi fans de l'univers Twilight ? Reportage d'Amélie Beaucourt pour VMD.
Elle a créé la surprise en mai dernier en installant un mystérieux compte à rebours sur son site internet. 4 jours plus tard, ses fans sont fixés. Stephenie Meyer sortira enfin Midnight Sun, un nouveau volet de sa célèbre saga de vampires, Twilight. Pas vraiment une surprise, puisque comme l'explique au téléphone son traducteur français Luc Rigoureau, son écriture était dans les tuyaux depuis longtemps.
C'est un projet qui était très ancien. Elle avait commencé alors qu'elle écrivait la saga. Il se trouve qu'il y a eu des fuites sur Internet et que ça l'a mise en colère et qu'elle a abandonné le projet. Et sous la pression des fans, elle a travaillé à nouveau ce texte pendant une douzaine d'années et elle dit elle-même que ça a été un très gros fardeau. C'est à la fin du livre d'ailleurs, elle dit qu'elle a traîné ce livre un peu comme un boulet, mais elle l'a fait pour faire plaisir à ses fans.
En 2008, les 16 premiers chapitres du texte fuitent sur Internet. Mélanie est une fan de la première heure et elle a découvert Midnight Sun à ce moment-là.
J'avais perdu espoir en fait qu'elle écrive la fin. Clairement, elle le disait hein, sur Internet que Stephenie Meyer ne voulait pas écrire la continuité. Elle s'est sentie trahie et ça peut se comprendre. Et j'ai appris par hasard, je crois, l'année dernière sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'elle sortait Midnight Sun réellement et j'étais vraiment contente.
15 ans plus tard, alors que la jeune femme a une trentaine d'années, sa passion pour l'univers reste inchangée. Tout comme Sophia, une autre fan venue tout droit de Belgique, qui suit de très près l'actualité de la saga. Et qui a remarqué d'ailleurs qu'elle touchait de nouveaux fans.
Les fans de Twilight, c'est comme les fans d'Harry Potter, c'est vraiment des fans hyper fidèles. En plus, plein de gens qui n'avaient jamais vu les films les ont découverts pendant le confinement. Et j'ai pu remarquer ça sur Twitter, Instagram, beaucoup sur TikTok. Et du coup, j'ai remarqué que cette histoire, bah, elle touchait tous les âges et toutes les générations. Parce que sur TikTok, c'était des enfants de 12 ans qui avaient découvert avec le confinement la saga Twilight. Et du coup, ils faisaient des vidéos où ils en parlaient avec... tellement d'étoiles dans les yeux, tellement de passion. Il y en a même beaucoup qui faisaient des contes, mais entièrement dédiés à Twilight.
Sophia était adolescente lorsqu'elle a découvert les premiers tomes, mais elle a aujourd'hui 25 ans et elle porte un regard un peu plus critique sur l'histoire d'Edward et Bella.
Un truc qui m'a beaucoup dérangée aussi en relisant le premier tome, je me disais, mais je ne sais pas si c'est Edward qui est misogyne ou Bella qui a un problème avec le féminisme, mais le fait qu'il ne veuille pas la laisser conduire, qu'il veuille toujours lui conduire, même quand c'est la voiture de Bella, d'un point de vue féministe, je me disais vraiment, il y a un problème.
Son traducteur remarque toutefois que l'écriture de l'autrice a évolué avec le temps. Les fans pourront d'ailleurs peut-être s'en rendre compte prochainement. Dans une interview accordée à la presse américaine, Stephenie Meyer aurait confié vouloir continuer à écrire sur le sujet, malgré le fardeau de Midnight Sun.
Elle dit qu'elle a encore des choses à raconter, qu'elle n'écrira plus du point de vue d'Edward. Elle n'a plus rien à dire de la part d'Edward, mais elle envisage 2 projets qu'on ne connaît pas. Ce qu'elle aime, c'est créer des mythologies, donc en fait des univers, et qu'elle voulait se diriger là-dedans, mais qu'elle avait encore des choses à dire sur cet univers vampire humain.
Pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, les aventures d'Edward et de Bella ne sont donc peut-être pas terminées.
Amélie Beaucourt, dans Vous m'en direz des nouvelles. Félicitations à Dave Bangui de Kinshasa, le gagnant du jeu de jeudi dernier. Il recevra Liv Maria, le nouveau roman de Julia Kerninon, paru aux éditions de l'Iconoclaste. La bonne réponse à la question était Fergus. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Philippe Dana, l'ancien présentateur de l'émission culte de Canal+. Sa cartoon sort aux éditions Kero, un roman enquête intitulé « Au pays des Toons » où on retrouve notamment Bugs Bunny, Daffy Duck, Bip Bip, le Coyote, Betty Boop et plein d'autres héros. À demain donc pour les retrouver et vous m'en direz.